vue d'ensemble de l'actualité.
Trois nouveaux décès, donc on est maintenant à 36. Je veux offrir mes sincères condoléances aux familles, aux proches de ces trois nouvelles victimes. On a maintenant 5518 cas. C'est une augmentation de 907. On a 365 personnes qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 58. Et on a maintenant 96 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 14.
Trêville PM.
Et parlant de soins intensifs, quand les personnes sont aux soins intensifs, c'est des intensivistes, des médecins intensivistes qui s'en occupent. Et le docteur François Marquis en fait partie au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Bonjour François.
Bonjour, bonjour.
Augmentation de 907, là on se rapproche dangereusement d'une augmentation de 1000 cas. Est-ce que ça vous donne le vertige ou c'est quelque chose que vous anticipiez puis vous n'êtes pas nerveux?
Ben, en fait, je suis pas nerveux de ça parce que en réalité, ce que ça me dit, c'est que oui, il y a beaucoup de cas, mais ça me dit aussi qu'il y a beaucoup de cas qui peuvent être traités en dehors de l'hôpital parce que quand on regarde le nombre d'hospitalisés, naturellement, il augmente, mais il explose pas. Et même chose pour les soins intensifs, la proportion reste la même et pour l'instant, on est encore bien en deçà des capacités là, des soins intensifs activés. C'est certain qu'on préférerait de voir déjà tout de suite le nombre de cas diminuer, mais ça serait utopique. Là. C'est que pour nous, ça suit le plan de match.
Quand vous dites proportion, là, dans le cas des personnes aux soins intensifs, dans le fond, c'est le nombre de personnes qui sont aux soins intensifs par rapport au nombre de personnes qui sont hospitalisées. Hein. Ça, c'est ça qu'il faut surveiller beaucoup, beaucoup. Hein.
Oui, effectivement, puis c'est ça pour nous qui est le grand indicateur un peu de la virulence ou de la dangerosité de la maladie. Aussi, quand on regarde par rapport aux cas détectés, ce qui est important de se dire, c'est normal, plus il y a de gens qui sont malades, plus il y a une proportion qui va finir aux soins intensifs. Mais ce qu'on fait présentement se compare avantageusement, si on regarde ça d'un point de vue de résultats et de statistiques, à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Là. Je maintiens qu'être au Québec présentement, là, c'est relativement un des endroits les plus sécuritaires dans le monde.
Qu'est-ce qui fait que notre nombre de cas augmente, mais le nombre de cas aux soins intensifs, lui, oui, il augmente, mais il augmente pas d'une façon, comment dire, il explose pas. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que les cas qu'on détecte et qu'on diagnostique positifs, finalement, c'est des personnes dont les symptômes sont bénins? Et si oui, pourquoi? Y a-t-il une explication?
Bien, je pense qu'effectivement, c'est ça que ça nous dit. C'est que ce que ça nous dit, c'est que notre population à risque a bien écouté les consignes. Donc, on les félicite, on les encourage à continuer. Et ça veut dire que les gens présentement qui sont atteints peuvent rester à la maison, sont assez en bon état pour rester à la maison. Ça veut peut-être aussi dire que ces groupes-là, donc nos plus jeunes et nos plus en santé, écoutent moins bien les directives et on peut peut-être besoin de se faire rappeler leur importance globale comme citoyens du Québec, écoutants et sages les consignes du gouvernement.
Ah, ça, c'est intéressant. Donc, ce que vous déduisez du fait qu'on a, somme toute, un faible taux de nos personnes infectées qui se retrouvent aux soins intensifs, c'est que vous en déduisez que les personnes aînées sont pas surreprésentées dans ce groupe-là et que c'est plutôt des personnes plus jeunes qui résistent mieux, donc qui ont moins de chances de se retrouver en difficulté respiratoire puis aux soins intensifs. Vous en déduisez, dans le fond, que c'est les jeunes qui sont plus problématiques dans le nombre de personnes infectées.
Bien, en fait, oui, et en fait, c'est une des explications. Et ce que nous autres, on voit avec les chiffres des soins intensifs, alors qu'on s'attendait à ce que massivement les patients de 70 ans et plus soient notre grande clientèle aux soins intensifs, si on regarde les chiffres des soins intensifs présentement, je vous dirais qu'il y a quand même plusieurs 40 ans et plus. Donc, ce que ça nous dit, c'est que oui, on a des patients plus âgés, mais eux ne sont pas surreprésentés. Ils ont écouté et raison de plus pour leur renforcer le message que ça fonctionne et que ceux de ce groupe d'âge-là qui seraient tentés de dire qu'ils sont plus forts que les statistiques, que c'est pas une bonne idée parce que pour l'instant, leur leur groupe semble s'être protégé, commencez pas à courir après le trouble, à faire rentrer dans ces cercles-là des gens malades, parce que vous allez perdre cet avantage-là.
Donc, quand le premier ministre disait, nous autres, on a 4 décès par million d'habitants, mm-hmm. alors que l'Espagne puis l'Italie sont à 200 décès par million, la grande différence, dans le fond, c'est que eux autres, qui ont beaucoup de décès par million, c'est les personnes aînées qui ont été frappées massivement, alors que jusqu'à maintenant, nous autres, on semble être bien capables de résister à ça.
Ça, et on rajoute au fait que l'on n'a pas saturé notre système de santé, on l'a aplani, la courbe, faut continuer de taper dessus la courbe, et ça fonctionne, dans le sens que moi, quand un patient arrive, il n'y a pas le risque ajouté de mortalité que tout le monde est occupé, en train de s'occuper déjà de centaines de d'autres patients. Moi, quand un patient arrive à l'urgence, il a l'attention dont il a besoin. Et ça, certainement, pour les patients plus fragiles, ça peut être quelque chose qui va avoir un impact très, très, très important, là.
Dites-nous, Dr Marquis, comment ça fonctionne, justement, quand vous savez qu'il y en a un qui arrive? Vous savez, il y a une ambulance qui arrive à Maisonneuve-Rosemont, et à bord de l'ambulance, il y a un patient ou une patiente, une personne qui va devenir une patiente qui a la COVID-19. Parlez-nous de la mécanique.
Bien, la mécanique est assez simple. Premièrement, limiter au maximum le trajet dans l'hôpital. Donc, nous, on les amène directement dans une zone où ils vont être un peu confinés. Et là, on va encore là leur faire rencontrer un minimum de personnel soignant qui vont avoir les équipements de protection déjà sur eux autres. Là, on se fait aviser, là, c'est qu'on ne court pas après le trouble. Et à partir de là, essentiellement, le premier triage, c'est est-ce que ce patient-là va avoir besoin de soins intensifs? Est-il en détresse respiratoire? Combien d'oxygène il a de besoin? Toutes ces choses-là. À partir de là, il y a deux choix possibles, soins intensifs ou l'unité à l'étage COVID-19. Si le patient est bon pour l'étage, il va être rapidement envoyé à l'étage de pression négative où des médecins vont s'occuper de lui avec toute l'équipe dédiée à ça. Si le patient a besoin de soins intensifs, bien, il va s'en aller dans la zone chaude s'il est prouvé COVID-19. Mettons qu'on parle d'un transfert interhospitalier. Si on a un point d'interrogation, le patient va être considéré comme potentiellement COVID-19. Il va donc se retrouver isolé, mais pas mis d'emblée dans la zone chaude. Tout d'un coup, que ce ne serait pas ça, on ne voudrait pas en plus lui donner le COVID-19. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'isoler, on va attendre son résultat pour prendre la décision, mais il a accès aux soins intensifs. Il va être placé dans ce qu'on appelle la zone tiède, c'est-à-dire un endroit où on met tous ces patients-là en attente de dépistage, et à partir de là, ils vont être orientés. C'est ce qu'il faut comprendre là-dedans. Vous ne m'avez pas entendu parler des autres patients, parce que les autres patients ne sont jamais mélangés avec les COVID-19 ou avec les présumés en attente de résultats. Il y a un hôpital dans un hôpital, il y a deux tracts séparés. Et dans les corridors, là, quand on déplace un patient à COVID-19, il y a des gardes de sécurité qui vident les corridors avant. Ça se peut pas que quelqu'un vire le coin puis arrive nez à nez avec un COVID-19. Ceux qui sont capables de marcher, il y en a plusieurs, sont escortés en tout temps pour aller d'une unité à l'autre ou d'aller dans les examens ou des choses comme ça. C'est qu'il faut comprendre là qu'on cherche à séparer complètement nos deux populations pour pas que les gens qui ont des raisons tout à fait légitimes d'être à l'hôpital mais qui ne sont pas des COVID-19 se ramassent avec un COVID-19 par-dessus.
C'est vraiment fascinant. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez, à toute fin pratique, 3 zones de soins intensifs, c'est-à-dire une pour les COVID-19 confirmés, une pour les COVID-19 présumés en attente et une troisième pour tous les autres cas?
Et c'est exactement ça, sauf qu'en fait, présentement, on a 2 unités pour les autres cas, et on a une unité chaude et une unité dite tiède là pour les dépistages, mais déjà, nous, on a des plans, parce qu'on sait que le défi, ça va être la période après Pâques. On a déjà des plans pour étendre notre zone chaude, étendre notre zone tiède et déborder notre zone froide dans un endroit qui est complètement ailleurs dans l'hôpital, là, pour vraiment encore mettre une distance physique entre les deux. Puis il faut mettre l'emphase, là, Pâques va être un gros test, parce que les gens vont vouloir se retrouver en famille, les gens vont vouloir faire une petite exception, et ça, c'est comme le premier gros test. Nous, on a été chanceux par rapport à la Chine, là. Eux autres ont eu ça avant leur festivité du jour de l'an. Nous, c'est arrivé après Noël puis les festivités des fêtes, mais là, Pâques va être un test. Il faut pas relâcher la vigilance, parce que 5 à 11 jours après, le système de santé va ramasser le tsunami en pleine face, là.
En terminant, François Marquis, est-ce que vous avez été confronté à un cas, jusqu'à maintenant, d'une personne atteinte de la COVID-19 qui était en grande détresse respiratoire? Et comment ça s'est passé?
Bien, en fait, la réponse à ça, c'est oui. Donc, en fait, en grande détresse respiratoire, ce qu'on fait, c'est qu'on les intube, on les met sur le respirateur, ce qui est probablement une des procédures qui risque le plus de contaminer l'équipe autour. Donc, c'est les équipements de protection, les visières, les masques. Mais pour le reste, cette procédure-là n'est pas plus difficile à faire chez un patient qui a un COVID-19 qu'un influenza très sévère. Le danger est au niveau de la contagion pour les autres. Maintenant, une fois que les patients sont intubés, c'est des longues intubations. C'est ça que l'expérience est en train de nous montrer, c'est éviter de l'attraper parce que si vous vous ramassez aux soins intensifs, ça ne sera pas l'histoire de 2 ou 3 jours. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, j'ai été intubé, moi, 2 ou 3 jours, ça a bien été après. » Non, notre moyenne, c'est au-dessus d'une semaine. Mes collègues, dans les autres hôpitaux, c'est la même chose. Si vous vous ramassez intubé pour un COVID, vous allez être sur le tube pendant longtemps. Et avec des impacts, là, probablement pour des mois et des semaines qui vont vivre sur votre santé, là.
Pourquoi? Parce que les poumons ne suffisent pas. Expliquez-nous.
Ben, c'est ça. C'est quand le poumon arrête et est plus capable de faire son travail tout seul, on va l'assister avec notre respirateur. Mais pendant ce temps-là, le patient souvent reçoit beaucoup de sédation, beaucoup d'analgésie parce que c'est pas évident d'être branché sur sa machine. Et là, il va être immobilisé. Ses muscles vont s'atrophier. Ils font des plaies. Après ça, les muscles ont perdu leur force. Ça peut, même chez des jeunes de 30 ans, une semaine immobilisée aux soins intensifs, ça peut vouloir dire 1 mois, 2 mois de physiothérapie. Donc, il y a des conséquences à long terme qui dépassent simplement le poumon. Le poumon va guérir. Si le patient survit, le poumon va guérir. Mais les gens peuvent avoir des impacts pendant des mois, voire des années après de cette hospitalisation-là, surtout à cause de l'immobilisation prolongée et des médicaments qui peuvent affaiblir beaucoup les gens.
Bon, ben ça nous rappelle ce pourquoi il ne faut pas tomber malade. Donc, ça nous rappelle ce pourquoi il faut les suivre, les mots tadites consignes. Parce que ce que vous venez de nous décrire, honnêtement, tu n'as pas le goût de vivre ça, là, François Marquis.
Oh non, non, non.
Non, non, tu n'as vraiment pas le goût de vivre ça. Intensiviste, je le disais, interniste au CIUS de l'Est de Lille, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur François Marquis, continuez, lâchez pas, faites attention à vous.
Merci, puis merci pour le support.
Vous êtes bien fin, merci beaucoup. On s'arrête au retour, c'est Luc qui va nous donner son tour d'horizon.